serez bienvenu dans cette émission. L'élection et l'installation des membres du bureau définitif du Sénat est en cours en ce moment, au moment où nous sommes en train de présenter cette émission au Palais du Peuple à Kinshasa. Jean-Michel Samalukonde vient d'être élu président du Sénat avec 84 voix contre 9 pour Jonas Mukamba et José Kalala Wakalala, premier vice-président avec 91 voix. Et Modeste Bati Lukwebo, élu avec 64 voix contre 26 pour Estache Mwanzi. Mais le résultat va continuer à tomber progressivement pendant que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire cette émission. Quelle analyse faire des enjeux de ces élections? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission, ici au studio, Joseph Kongolo. Il est analyste politique et coordonnateur du bureau d'études et d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Bonsoir Joseph Kongolo.
Bonsoir, je dis bonsoir aussi à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
En ligne, professeur Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Bonsoir aux auditeurs de Radio Capi et bonsoir à tous ceux qui vont suivre l'émission.
Et lui aussi va nous rejoindre, c'est Christian Moleka, il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Nous le disions, l'élection et l'installation des membres du bureau définitif du Sénat est en cours en ce moment au Palais du Peuple à Kinshasa. Jean-Michel Samalukonde vient d'être élu président du Sénat avec 84 voix contre 9 pour Jonas Mukamba et José Kalala Wakalala est premier vice-président avec 91 voix. Modeste Bahati Lukwebo élu avec 64 voix contre 26 pour Estache Mwanzi. Et je pense qu'on va écouter cet élément, si je ne sais pas si il est disponible, Michel Kifindangoy, qui nous parlera, n'est-ce pas, des discours qui ont été tenus par les différents candidats avant que l'on puisse passer aux élections. Michel Kifindangoy pour les détails.
Prenant la parole au perchoir du Sénat pour l'audition de son discours de campagne, le candidat d'élu des PES, Idrissa Afani, annonce son désistement en faveur de la candidature de Samalukonde.
Devant cette grande décision, je ne pouvais que m'effacer en faveur de l'honorable Samalukonde Kyenge.
Pour sa part, Jonas Mukamba, 93 ans, met en avant-plan sa large expérience dans les affaires publiques.
Je vais partager avec vous ce qui me tient à cœur pour conduire ensemble, et cela la République, c'est ici la question de la réconciliation nationale.
Parti favori pour cette élection, Jean-Michel Samalukonde se montre rassurant.
Je voudrais vous rassurer que nous ferons tout notre possible pour que votre voix soit considérée. Cette ambition, je la base sur mon expérience. J'aimerais m'appuyer sur le fait que dans un passé très proche, j'ai occupé Premier ministre de notre pays. Je mets à votre service ces acquis dans notre diversité et notre pluralité. Nous acceptons et nous œuvrons ensemble pour le bien de nos populations.
Après différentes auditions des candidats, les sénateurs départageront les uns et les autres par un vote à bulletin secret.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Nous rappelons que ça, c'était les différents discours qui ont été tenus par différents candidats avant les élections. Christian Moleka, nous venons de recevoir dans cette émission, dans ce studio. Vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Samalukonde, Jean-Michel, ancien premier ministre, vient d'être élu président du bureau définitif du Sénat avec 84 voix contre 9 pour Jonas Mukamba. Est-ce une surprise ou c'était prévisible?
Prévisible d'autant plus qu'au niveau de l'Union Sacrée, il y avait une forme de consensus sur le ticket. Et que déjà on avait annoncé par voie de presse que le candidat de l'UDPS allait se retirer au profit du ticket AB. Donc sauf, comportement électoral différent des élus au sein de la salle, il était très prévisible qu'avec le retrait de l'UDPS, que le ticket AB qui était avalisé par le sacré passerait.
Alors, même s'il n'a pas été, n'est-ce pas, le candidat de l'UDPS, est-ce qu'on peut dire qu'il a bénéficié des voix des sénateurs de l'UDPS à partir du moment où le chef de l'État lui-même l'a désigné comme candidat unique de l'Union Sacrée?
Probablement. L'UDPS, c'est la première force au niveau du Sénat. Donc, si vous ajoutez également la mosaïque UDPS, sans ces voix-là, vous ne passez pas. En tout cas, pas avec les scores qu'il a obtenus. Et donc, il est nécessaire qu'il puisse avoir ce consensus-là pour qu'il puisse s'en tirer aussi facilement.
Et si les sénateurs UDPS ont voté pour Samalou Kondé, qu'en est-il du parti politique UDPS plutôt? Est-ce qu'il ne va pas se sentir lésé par cette élection?
Bon, il y aura certainement des traces. On a vu que même au niveau du parti, qu'il y a encore des tensions. Donc, il est probable qu'il y aura des traces. L'UDPS aligne quand même un candidat, l'UDPS mosaïque, un candidat rapporteur Ivan Kazadi, un candidat questeur Topin Mokengessai. Donc, il y a des possibilités d'être, je dirais, de se retrouver ailleurs. Même si on perd la présidence directe du Sénat, dans les différents tickets, l'UDPS, dans sa forme mosaïque, a aligné des candidats qui peuvent être élus.
Et pourquoi, à votre avis, cette question du président du Sénat et les dauphins constitutionnels des chefs d'État a failli diviser l'Union sacrée?
Parce qu'il y a, au niveau de l'Union sacrée, de mon point de vue, il y a un double fonctionnement. Il y a un engagement du président avec le directoire. On a vu que, après les élections, les grands membres du directoire ont tous été casés, excepté seulement donc dernier et Augustin Kabouya. Kamira a obtenu l'Assemblée nationale, Bahati, après moult revendications, a passé au niveau du Sénat. Bemba a été reconduit au niveau du gouvernement, il ne restait que Sama et Kabouya Augustin. Et donc il y a vraisemblablement des engagements qui ont été pris au niveau du directoire qui ne correspondent pas aux attentes des partis politiques en termes de rapport de force numérique. Il y a un décalage entre le poids que les alliés prennent et leur poids politique réel en termes chiffrés au niveau du Parlement. C'est cela qui a été dès le départ les éléments de tension. Ensuite, c'est le fait également qu'au sein de l'UDPS, on n'a pas bien géré les ambitions en termes de tickets des géopolitiques. Parce que représenter par exemple un Mangala qui est de l'espace Maniema, qui en principe fait rejoindre le Grand Kivu, géopolitiquement, n'est pas une bonne carte. Parce que le Grand Kivu a déjà un caméra à l'Assemblée nationale, et donc mettre un Maniema qui appartient au Grand Kivu, ce n'est pas de l'équilibre géopolitique. Donc il y a également ça, les ambitions au niveau du parti qui est préjudicié, mais je crois que c'est davantage les engagements pris par le président avec le présidium qui a pesé, et qui paraît comme préjudicié le parti qui, en principe, et première force, aurait pu revendiquer l'Assemblée nationale, le Sénat, comme l'avait le PPRD d'antan, avec un Aubin Minaku ou un autre au niveau du Sénat. C'était son poids réel, mais les enjeux politiques ont fait que le poids réel ne s'est pas manifesté dans l'équilibre des postes.
Merci Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique et coordonnateur du bureau d'études et d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Et quelle est votre lecture par rapport à l'élection de Jean-Michel Samalou Kondé comme président du bureau définitif du Sénat?
D'abord, je lui adresse mes félicitations parce qu'être élu à la tête de la chambre haute du Parlement n'est pas une moindre affaire, et surtout au vu des tractations qui ont précédé cette élection, et il a eu à résister à tout ce vent. Donc je lui adresse toutes mes félicitations. Mais au-delà de ce que mon ami et frère Christian vient de dire tout à l'heure, je crois que la politique a ses logiques, qui sont différentes des logiques ontologiques, des logiques scientifiques, deux fois. Vous savez que nous sommes dans notre pays, nous savons quels sont les équilibres. Il y a des équilibres linguistiques, il y a des équilibres provinciaux. Bon, mais il y a d'autres équilibres, beaucoup plus politiques. C'est que l'espace Grand Katanga qui constitue aujourd'hui la province la plus riche, à peu près 70% du budget national provient de la province du Grand Katanga. Je crois qu'au-delà de tous les autres équilibres sous lesquels qu'il faut prendre en considération, il y a aussi cet élément fondamental. C'est que le Grand Katanga, qui est la province la plus riche et qui donne à peu près 70% du budget national, ne peut pas, dans la stratégie politique, manquer d'être à la tête d'une institution. Et je crois que c'est l'élément le plus objectif politiquement parlant. C'est l'élément le plus objectif politiquement parlant. Donc, ce serait mal vu de voir le Grand Katanga continuer aussi d'autres éléments que nous connaissons tous, les velléités sécessionnistes. Tous ces éléments doivent être en ligne du compte pour le porteur du pouvoir. Donc, tous ces éléments montrent assez clairement qu'au-delà des équilibres provinciaux, il y a aussi cet élément fondamental qui doit être pris en compte dans le partage des institutions. Et là, je salue ça, son élection, parce qu'en fait, il y a un peu une stabilité, une certaine stabilité au niveau de cette grande province qui est pourvoyeuse, si vous voulez bien, de pratiquement trois quarts du budget national.
Oui, entre la question du poids politique et celle des géopolitiques, quelle est celle qui doit être prise en compte ?
Les poids politiques, le poids politique, par principe, ce sont des principes, mais au-delà des poids politiques, il y a des réalités qui peuvent l'emporter sur le poids politique. D'ailleurs, nous sommes dans ce cas, c'est le cas d'espèce aujourd'hui. Sama est à la tête de l'Assemblée nationale. Et M. Kamere est à la tête, Sama est à la tête, n'est-ce pas, du Sénat, et M. Kamere est à la tête de l'Assemblée nationale. Donc c'est au-delà du poids politique, au-delà aussi, bon, d'autres éléments qui sont pris en considération. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a des enjeux politiques qui ont fait que Kamere, par sa proximité avec le président de la République, par son poids au sein de l'Union sacrée, et d'autres éléments qui peuvent être subjectifs par rapport au porteur du pouvoir. Ça aussi, il faut le considérer. Il y a d'autres éléments subjectifs par rapport au porteur du pouvoir qui peuvent faire en sorte que quelqu'un occupe une institution, comme c'est le cas de Kamere aujourd'hui. C'est pas le poids politique, Kamere. Donc, au-delà de sa présence au sein de l'Union, comme noyau dur de l'Union sacrée, il y a aussi d'autres éléments, d'autres subjectifs qui justifient sa présence à la tête, n'est-ce pas, de cette Assemblée nationale. Donc, je voudrais dire tout simplement que dans ce genre d'opération, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Évidemment, les plus plausibles sont ceux-là que nous avons, auxquels nous avons fait allusion tout à l'heure, et qui est provincial, le poids politique, ainsi de suite. Mais au-delà de tout ça, il y a d'autres éléments qui sont d'ordre subjectif et qui peuvent aussi prévaloir par rapport aux éléments objectifs.
Et ceux qui se sentiraient lésés, n'est-ce pas, par cette répartition des responsabilités, ne pourraient pas, à votre avis, mettre en exergue cette question des zones linguistiques en disant que la zone swahilophone semble s'être taillée, n'est-ce pas, la part du lion.
Oui.
Parce que vous avez là Kamere qui est à la présidence de l'Assemblée nationale, et vous avez Sama Lukonde qui est à la présidence du Sénat, et qui sont swahilophones.
Vous savez, tous ces conseils de swahilophones, lingalophones, tilubaphones et tout ça, ce sont des concepts qui n'ont pas une véritable réalité de ce pays. Quand vous voyez le Katanga et l'Est de la République, si vous les mettez dans le même coin simplement parce qu'ils parlent le Swahili, je crois que politiquement parlant, ça ne se justifie pas.
Pour vous, peut-être, hein, mais il y a des gens qui prennent en compte cela, hein, ils prennent beaucoup au sérieux cette question-là.
C'est un élément qui n'a pas suffisamment de poids dans le calcul politique. Ça n'a pas suffisamment de poids dans le calcul politique. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, on parlait de l'équilibre provincial, et quand on parle d'équilibre provincial aujourd'hui, on tient compte des 11 provinces et non pas des 26 provinces. Vous voyez ? C'est pourquoi je vous dis que ce sont des éléments qui sont très fluides, hein, et qui n'ont pas suffisamment de poids en réalité. Mais au moins la réalité reste là, il y a des espaces linguistiques auxquels il faut tenir compte, je suis d'accord, mais ce sont des éléments qui ne pèsent pas par rapport à d'autres éléments tels que le poids politique et tels que aussi des calculs politiques en fonction du porteur du pouvoir.
On a vu l'UDPS qui a présenté des candidats, n'est-ce pas, à ses postes de président du Sénat. Il y avait Idriss Mangala, l'ancien gouverneur du Maniema, et aussi le vieil Jonas Mukamba. Et à votre avis, que peut représenter la présence du Sénat pour les partis présidentiels que l'UDPS dans les contextes du moment?
Vous savez que depuis que l'UDPS a la majorité, ou depuis que l'UDPS a accédé au pouvoir, ils n'ont jamais exercé directement le pouvoir au niveau à la tête des institutions. Rappelez-vous, la dernière législature, ce n'était pas quelqu'un de l'UDPS qui a dirigé. C'était évidemment une coalition. Et dans cette législature, l'UDPS a des manettes de fonctionnement du Sénat. Ah, ça, il ne faut pas oublier. Donc, vous avez la vice-présidence. Vous connaissez, si vous parcourez le règlement intérieur ou les statuts, le règlement intérieur, je crois, du Sénat, vous verrez que l'enjeu du fonctionnement du Sénat se trouve entre les mains du vice-président. Vous avez le questeur, je crois. C'est le questeur qui est de l'UDPS, Topin.
Topin, oui. Le premier vice-président, il est allié de l'UDPS.
Il est allié de l'UDPS, justement. Enfin, écoutez, quand vous parlez de mosaïque, ce sont les mêmes membres de l'UDPS qui ont créé des groupuscules politiques pour juste avoir un espace d'expression électorale. Vous avez Topin, qui est très proche du président de la République et qui contrôle pratiquement les finances du Sénat. Je crois que c'est une autre bonne manière aussi de contrôler pratiquement le fonctionnement du Sénat, pas forcément être à la tête du Sénat. C'est vrai que c'est très symbolique. Bon, les gens parlent dans la rue en cas de l'empêchement définitif du président de la République, on prend le pouvoir et tout ça. Bon, c'est aussi un raisonnement que je ne rejette pas, évidemment, mais je crois que l'UDPS est à 10 postes stratégiques, n'est-ce pas, pour le fonctionnement de deux institutions, et l'Assemblée nationale et aussi le Sénat. Et je crois que c'est une autre manière aussi de montrer qu'on a partagé le pouvoir avec les autres, avec les collaborateurs.
Merci, professeur Bob Kabamba. Vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Quelle est votre lecture par rapport à ces élections au Sénat qui viennent de donner jusque-là comme président Jean-Michel Samalou Kondé, comme premier vice-président José Kalala et comme deuxième vice-président Modeste Bati Lukwebo?
En tout cas, merci pour l'invitation. Lorsque l'on a effectivement ce genre de décision, il est toujours important d'analyser le processus plutôt que le résultat. Et quand on essaie d'analyser ce processus, on se rend bien compte que ce processus, l'étude de ce processus, relève véritablement beaucoup de choses intéressantes en termes d'analyse politique et en termes de dynamique politique. Premièrement, c'est que lorsque l'on pense à la création de l'union sacrée de la nation, c'était une alliance qui est normalement faite avec comme objectif de consolider, en lisant un peu les différents discours et les différents commentaires, consolider les acquis et permettre au président de la République de pouvoir avoir une majorité solide et de pouvoir diriger correctement tant que la RDC. Alors, lorsque l'on regarde maintenant ce processus et avec aussi les différents reports qu'on a eu à plusieurs reprises, reports de ces élections et des dépôts des candidatures, les modifications des candidats qui devaient être présentés au nom ou pas nom de l'union sacrée de l'opposition de la nation. Et donc tous ces éléments-là nous illustrent, nous montrent véritablement que dans un premier temps, il y a un constat qui nous frappe, c'est un constat véritablement de dissension. Dissension au niveau de ce qu'on appelle le presidium, c'est-à-dire ceux qui sont censés se coordonner pour pouvoir arriver à présenter toute une série d'options au chef de l'État. Et cette espèce de manque de cohésion et de dissension que l'on a observé pendant plusieurs jours a abouti manifestement à des conflits, et des conflits entre les différents groupes qui constituent donc cette union sacrée. Et cette conflictualité peut être analysée de deux façons. Pourquoi est-ce que ça se remarque beaucoup plus au niveau du Sénat? Parce que, comme vous l'avez souligné dès le départ, le Sénat est une institution à part, et cette institution à part a une autre dynamique du fait que le potentiel, entre guillemets, je dis véritablement le potentiel remplaçant du chef de l'État et le président du Sénat. À partir de ce moment-là, bien entendu, cela attise toute une série de convoitises au sein même de l'Union sacrée. Et ces conflits, contrairement à ce que l'on peut penser, même si on a les résultats tels qu'on les a aujourd'hui, il y a effectivement, va laisser des traces. Des traces, non seulement au sein de ce groupe, mais aussi au sein même du fonctionnement de ce qu'on appelle tout le contexte donc institutionnel. Et cela aussi augure de mon point de vue, une guerre quand même, qui va être une guerre en interne, et cette guerre en interne aura comme ambition, puisque beaucoup de politiciens congolais se projettent déjà pour 2028, toute chose restant égale par ailleurs, c'est le dernier mandat du chef de l'État, et donc j'imagine que, comme c'est le dernier mandat du chef de l'État, donc chacun maintenant va vouloir se positionner par rapport à cet objectif de 2028. Et la répercussion, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera véritablement au niveau des institutions, là où on aura cette conflictualité qui va certainement se répercuter au niveau du fonctionnement.
Voilà, on vient de l'apprendre, aucun candidat rapporteur n'a obtenu la majorité absolue. Des candidats se lancent pour un second tour. Il s'agit de Justin Kalumba Mwanangongo qui a obtenu 36 voix et Madame Nefertiti Ngundianza qui a obtenu 29 voix. Et donc la candidate MLC apparemment est tombée. Et professeur Bob Kabamba, on a vu comment les gens ont postulé à différents, n'est-ce pas, postes. Et à votre avis, quels pourraient être les enjeux d'abord par rapport aux partis politiques et puis par rapport aux individus, hein, pour occuper des postes au sein du bureau définitif du Sénat?
De manière générale, lorsque l'on regarde la répartition des différents postes qu'il y a eu depuis les élections, on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup de déçus et que l'on se rend bien compte qu'il y a un problème au niveau de la satisfaction des uns et des autres. Là, je parle au niveau des regroupements politiques et des partis politiques. Il y a certains qui s'estiment lésés dans cette répartition de différents postes, et ceux qui s'estiment lésés, bien entendu, l'ont fait remarquer d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de différents points de presse, au cours de différentes prises de position au niveau des partis politiques, et que l'espoir était pour eux de se dire, ben oui, si on est à ce niveau-là, on peut espérer qu'au niveau du Sénat, qu'on puisse y avoir une espèce de d'équilibrage qui pourrait se faire et satisfaire les différentes ambitions des uns des autres au niveau des partis. Mais manifestement, comme vous venez déjà de le dire, que le MLC, et qui espérait le poste de rapporteur, est déjà éliminé dans la course à ce poste, donc certainement cela va laisser des traces au niveau politique, je veux dire, par rapport au MLC, et qui va dire que ben, ils n'ont pas pu obtenir ce auquel, c'est à quoi ils avaient droit en termes de poids politique et en termes de dynamique au niveau donc du présidium. Et ça, c'est au niveau, je peux dire, groupement politique. Maintenant, au niveau individuel, ça veut dire au niveau des membres du présidium, là aussi, c'est très 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 clair, et c'est que l'objectif et de pouvoir se positionner par rapport à l'option de 2028. L'option de 2028, pour dire, est-ce que toute chose restant égale par ailleurs sur le dernier mandat du chef de l'État, et comme c'est le dernier mandat du chef de l'État, et donc nous pouvons aussi commencer à nous positionner de manière très claire par rapport à 2028. Et pour se positionner par rapport à 2028, il faut dans un premier temps avoir les moyens de pouvoir exister, mais aussi, ce qui est important, les moyens financiers, et de pouvoir, entre guillemets, peser dans l'optique d'avoir, d'être investi potentiel dauphin, donc de Félix Tshisekedi. Et les moyens financiers, on les a bien sûr lorsque l'on est au pouvoir, comme nous savons tous que la politique au niveau du Congo, c'est beaucoup plus la cryptocratie plutôt que autre chose. Et donc tout ce phénomène-là nous fait véritablement comprendre que cette élection va certainement laisser des traces de cohésion au niveau donc de l'UCM, et va éclairer, on va dire d'une certaine façon, va éclairer les positionnements personnel des uns des autres, Kamere, Bahati, Bemba, Sama Lokonde, par rapport à l'objectif de 2028.
Et donc, sur le plan politique, on peut comprendre, n'est-ce pas, la position de l'UDPS qui voulait, n'est-ce pas, qui cherchait Mordicus à occuper le poste de président du Sénat, compte tenu, n'est-ce pas, des enjeux du moment, et compte tenu aussi, n'est-ce pas, de 2028, et parce qu'il est dit, comme on l'a dit ici tantôt, que le président du Sénat, il est le dauphin constitutionnel du chef de l'État.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est la seule explication que l'on peut imaginer par rapport à la position de l'UDPS, tout en restant ben, logique en disant, mais oui, nous sommes la première force de la majorité, et que c'est notre pouvoir, et comme c'est notre pouvoir, il va de soi que nous devons consolider le pouvoir. Et la consolidation de ce pouvoir passe aussi par la présidence donc, du Sénat. Et cette présidence du Sénat, si elle est acquise à l'UDPS, ça veut dire que, grosso modo, on a une sorte de consolidation et de continuité du régime tel que on le connaît. Et c'est ça qui a justifié d'ailleurs, quand on lit les différentes déclarations et les commentaires des uns et des autres, on se rend bien compte que véritablement c'était la motivation et l'ambition de l'UDPS d'y arriver, qui a été même sur base de ça, blocage à différents niveaux, et d'avoir autant de candidatures, Sama Lokonde, Idriss, comme on vient de le dire tout à l'heure, et tous les autres que l'on a pu avoir comme candidat à la présidence. Alors, de ce point de vue-là, quand on regarde ça, et donc clairement, c'est ce qui justifie la position de l'UDPS, et cette justification de la position de l'UDPS, on a aussi compris que c'était les enjeux de 2028, les positionnements des uns des autres, et par rapport à la consolidation et à la pérennisation du régime.
Et ça, c'était l'Union sacrée, hein, mais on sait que l'opposition, n'est-ce pas, s'est disputée aussi les postes des vice-rapporteurs. Et Christian Moleka, là, c'est Jean-Claude Baende, officiellement, qui vient d'être élu rapporteur adjoint du Sénat avec 52 voix. Et il vient de battre donc au Salomon Idi Kalonda, qui n'a réuni que 43 voix, qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, lui permettre de devenir rapporteur adjoint du Sénat. Comment vous analysez cela? Alors que tout le monde voyait Salomon Kalonda Idi en bonne posture.
Ben, c'est l'Union sacrée qui avait le pouvoir de faire passer le rapporteur adjoint, parce que l'opposition n'a pas de majorité. On l'a vu à l'Assemblée nationale, l'Union sacrée avait décidé de faire passer Mme Dominique Mounongo pour avoir un opposant de Katumbi dans le bureau. Au Sénat, ils ont agi autrement. Pour moi, c'était presque prévisible, parce que dès l'instant où on avait aligné Mangala comme candidat président, qui est du Maniema, il était difficile d'avoir deux membres de Maniema au bureau, parce que si on avait fait passer Mangala de l'UDPS comme président à la place de Sama, on ne devait pas avoir un président de Maniema et un rapporteur adjoint de Maniema. C'était déjà le signal que dans la perception de l'UDPS, la candidature de Salomon Skadela n'était pas le plus envisageable pour le Maniema. Ensuite, si Kalumba Justin passe également, donc ça joue aussi l'équilibre géopolitique du bureau. Et donc probablement, Bayende, qui est de l'espace Équateur, va rejoindre ce poste pour permettre à l'Équateur d'avoir un membre. Je rappelle que Françoise Bemba n'est pas passée, elle est tombée, et que la seule possibilité pour l'Équateur d'avoir un membre, ce serait probablement soit Bayende, soit celui qui est candidat questeur, qui est également de la REP. Donc probablement, l'équilibre s'est joué là. Bayende est des 10 pros, l'opposition modérée, proche de dirigée par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Donc on n'a pas fait passer à l'Assemblée nationale l'El Katumbi, et on fait passer au Sénat l'opposition modérée de Constant Mutamba.
Joseph Mongolo, peut-on dire que l'équilibre géopolitique est quand même pris en compte?
Oui, elle est prise en compte, même si le genre n'est plus représenté. On se battait, on a remplacé l'ancien gouverneur de l'Ituri,
Bamanissa,
pour respecter un peu le genre. Malheureusement, elle est tombée, elle n'a pas pu s'accrocher, mais au moins l'Équateur reste représenté, comme Moulika vient de le dire tout à l'heure. Et effectivement, il fallait absolument que l'Équateur soit représenté dans ce bureau, et l'Équateur est passé. Mais pour revenir un peu à ce que le professeur disait tout à l'heure, les dissensions dans la scène politique congolaise en particulier sont tout à fait normales. Et chaque fois après la sortie du gouvernement, après élection des membres du bureau et tout ça, il y a toujours des dissensions qui viennent. C'est tout à fait normal. Je crois que pour le porteur du pouvoir, il a la possibilité de colmater toutes ces dissensions, n'est-ce pas, à partir de la gouvernance. Donc il y a moyen, n'est-ce pas, d'arriver à corriger toutes ces dissensions à partir, évidemment, d'autres postes. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, les entreprises, ainsi de suite, tout ça. Il y a moyen de colmater, essayer de calmer la situation. Et là, le porteur du pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir, c'est comment il peut arriver à colmater toutes ces dissensions et établir la paix, évidemment, compter sur la même plateforme pour 2028. Parce que quand nous voyons...
On a l'impression que c'est beaucoup plus la classe politique qui est servie, hein, et dans tout ça, on ne dit rien au sujet de ceux qui ne sont pas en politique.
Bah, malheureusement, vous savez, quand dans une culture politique, elle est encore paroissiale, ça veut dire... On ne connaît que les gens qui sont autour de soi, les gens que l'on connaît personnellement, individuellement, ou encore la petite paroisse, voyez-vous. C'est difficile de reporter le regard beaucoup plus loin, au-delà de ses relations personnelles, au-delà des amis, au-delà, n'est-ce pas, de ceux qui sont autour de soi, malheureusement. Mais alors que, en réalité, la République regorge des gens capables d'assumer des grandes responsabilités et peut-être de produire du résultat. Mais malheureusement, la culture paroissiale veut que ce soit les gens de l'entourage immédiat qui profitent, n'est-ce pas, de tous les postes. Et là, on fait fi, comme vous voulez bien, à la compétence et à d'autres éléments. Malheureusement, c'est une maladie aussi. C'est une maladie quand le projet politique, le projet démocratique a été d'abord très mal appliqué. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Malheureusement, nous subissons le coup aujourd'hui, le contre-coup aujourd'hui. Ça, c'est un problème très important. L'UDPS, je crois que l'UDPS aujourd'hui, il a positionné les gens sur lesquels elle peut compter en 2028. Il faut aller plus loin dans le regard. Évidemment, parmi eux, il y a des gens qui vont se désolidariser absolument, on les connaît, des gens trop ambitieux, mais on va essayer de les minoriser, tout simplement les minoriser, au besoin même les piéger. Nous connaissons ce qui se passe, nous savons ce qui s'est passé aussi. On sait les piéger pour non seulement les déclasser de la course, mais tout simplement les assujettir à l'UDPS, continuer à soutenir l'UDPS aux échéances prochaines. Je crois que c'est un peu ça. Quand vous voyez la position de l'UDPS dans différentes institutions, vous trouvez que si l'UDPS n'est pas PCA, l'UDPS est directeur général. Comprenez? Donc je crois qu'ils ont une stratégie qui n'est pas plausible aux yeux, n'est-ce pas, du citoyen lambda, mais en réalité, en profondeur, l'UDP a placé les pions, et je ne pense pas que Sama demain va se déclarer candidat à la présidence de la République. Donc c'est un allié naturel aujourd'hui de l'UDP.
Merci.
Je crois que l'UDP fait son travail à sa manière, et à mon avis, ils ne font pas des choses au hasard. Ils ont aussi leur façon et leur stratégie, et c'est ce qu'ils manifestent en plaçant les différents collaborateurs, les différents alliés dans des postes stratégiques.
Merci. Professeur Bokabamba, vous avez suivi l'analyse de Christian Moleka au sujet, n'est-ce pas, de la victoire de Jean-Claude Baende devant Salomon Idi Kalonda. Il pense que c'est la majorité, donc l'UDP, c'est... Et ces mosaïques qui ont fait passer Jean-Claude Baende. Et à votre avis, quel intérêt l'UDPS ou la mosaïque UDPS aurait à préférer Baende à Salomon Idi Kalonda?
C'est ce qui est assez surprenant, parce que lorsque l'on lit le règlement d'ordre intérieur, je pense que le règlement d'ordre intérieur est assez clair à ce sujet, quand il parle effectivement du poste qui est réservé à l'opposition. Et l'opposition au niveau du Sénat n'a que quatre sénateurs qui ont été élus dans cette élection. Et donc lorsque l'on voit ça, fatalement, il était assez incompréhensible de voir que DIPRO, qui s'est défini comme de l'opposition, mais quand on se définit comme de l'opposition et que l'on vote au niveau du Parlement comme la majorité, on n'est pas considéré comme l'opposition, on est considéré comme faisant partie de la majorité. Dans tous les systèmes politiques au monde, lorsque l'on vote, etc., pour valider le gouvernement, ben, on vote pour valider le gouvernement, ça veut dire qu'on vote pour valider ceux qui sont chargés de diriger, qui constituent la majorité. Donc, de mon point de vue, par rapport à ce qu'on appelle l'analyse politique claire, donc il n'y a pas, DIPRO pour ma part ne peut pas être considéré comme de l'opposition. Et aussi, je pense aussi que le fait d'avoir pris le privilégié Baende par rapport à Salomon Escadella, je pense que c'est lié aussi toujours à la perspective de la visibilité que pourraient avoir les uns et les autres en prévision donc de 2028. Salomon Escadella était conseiller spécial de Moïse Katumbi, le bras droit de Moïse Katumbi. Or, en lui donnant une espèce de vitrine au niveau du Sénat avec le poste de représentant de l'opposition, avec le poste de rapporteur adjoint, cela lui donnait quand même une vitrine politique assez importante, et cette vitrine assez importante à l'ébéni.
Merci. Professeur Bokabamba, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur, parce qu'ils sont en train de nous appeler. L'auditeur de Kisangani, il s'appelle Jackson Likongola, et vous allez réagir, n'est-ce pas, à sa réflexion, professeur Bokabamba.
Jackson Likungo Lamwendi depuis Kisangani, province de la Tchopo. La République démocratique du Congo souffre d'un problème majeur qui est la démocratie. Pourquoi aller aux élections avec les histoires des candidats uniques? Moi, je pense que la République démocratique du Congo doit revoir son système électoral à tous les niveaux.
Professeur Bokabamba.
Candidature unique, généralement, c'est assez simple à comprendre. Lorsque l'on est, par exemple, au sein d'une coalition, justement, la coalition est faite justement pour éviter de pouvoir arriver à avoir des candidatures multiples et de ne garder que la majorité avec les élections qui doivent avoir lieu et contrôler l'essentiel du pouvoir. Et c'est là où on parle de candidature unique, la candidature unique qui est de la majorité. Ça veut dire qu'il y a un consensus au sein des gens de la majorité pour présenter qu'un seul candidat. Et parce qu'ils ont la majorité, et comme ils ont la majorité, ils peuvent présenter un seul candidat. Alors, ce qui est, pour encore expliciter par rapport à ce qu'a dit l'auditeur, c'est que oui, candidature unique, mais aussi candidature, des fois aussi, comme indépendant, et qui avec la loi permet de pouvoir avoir aussi des candidatures comme indépendants, bien que nous ne pouvons pas, par exemple, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la ligne de votre groupe parlementaire ou bien de la majorité telle qu'elle s'est dessinée, et alors vous pouvez vous déposer comme candidat indépendant et espérer pouvoir glaner donc des voix. Donc le principe de candidature unique n'est lié qu'à la coalition majoritaire.
Merci Christian Moleka, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Guémena.
Cédric Lindende depuis Guémena, chef-lieu de la province d'Isilouban. La République démocratique du Congo a un problème d'homme politique. Les gens se disputent les postes, mais le quotidien de la population ne s'améliore pas. Le même Sama, qui n'a pas réussi à stabiliser notre monnaie, veut encore piloter notre chambre haute. Quelle malchance pour nous les Congolais. À mon sens, Sama devait laisser les autres compatriotes piloter le Sénat pour espérer un autre résultat. Apparemment, l'homme politique congolais n'était pas compte du bilan.
Oui, votre réaction, c'est vrai qu'il a été dur en parlant
Il pose le problème de la culture politique de manière générale et un cas personnalisé de Sama. Pour concerner la personnalité de Sama, nous sommes aux élections de second degré. Au second degré, ce n'est pas le scrutin direct où la population s'exprime, ce sont des jeux politiques liés aux ensembles. Donc je crois que là, ce sont les ensembles politiques qui jouent et c'est plus compliqué que les scrutins directs. On aurait mis au scrutin direct le président du Sénat qui peut-être qui ne serait pas passé. Là, c'est au second degré et les rationalités politiques sont très différentes des attentes populaires. Maintenant, concernant la problématique de la culture politique, c'est vrai, c'est parce que nous avons en politique de temporalité, la conquête et la gestion. Au Congo, les acteurs politiques développent davantage les capacités de conquête que de gestion, parce qu'on ne prépare pas la gouvernance. Et donc si on veut répondre aux problèmes des Congolais, il faut améliorer la gouvernance, il faut travailler à préparer la gouvernance. Et pas uniquement arriver au pouvoir et commencer à savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on arrive au pouvoir. On met beaucoup d'énergie à conquérir, à développer les intelligences pour prendre le pouvoir, qu'on le met dans la formation, la préparation des dirigeants à gouverner. Il faut peut-être qu'à un moment donné, nous inversions l'ordre, que nous avons plus d'attention dans la gouvernance que uniquement dans la conquête. Donc le problème du Congo, c'est la culture politique, c'est la préparation à la gouvernance, c'est le fait que les partis politiques ne préparent pas assez la gouvernance et donc les questions de développement sont plus ou moins reléguées en arrière que les questions des politiques politiciennes.
Merci Joseph Kongolo. Il y a cet auditeur qui nous a écrit, il s'appelle Léon Mukuna depuis Kananga Kwasa Sanskal. Il dit: je pense que cette élection du bureau définitif au Sénat n'aura rien à apporter au peuple car ce sont les mêmes personnes qui ont ruiné dans le passé ces pays par leur gestion et qui sont aujourd'hui imposées par leur club d'amis comme candidat unique.
Bon, Monsieur Léon doit savoir que on l'a dit tout à l'heure, les rationalités politiques sont totalement différentes, elles ne relèvent pas du commun du mortel. Je crois que le Sénat n'a pas la gestion quotidienne du pays. Le Sénat ne trace pas les politiques publiques. Le Sénat a un rôle qui n'est pas forcément celui de la gestion quotidienne, c'est le rôle de contrôle. Voyez-vous ? Donc, mettre la responsabilité de la précarité de la vie sociale sur le dos du Sénat, je crois que, bon, c'est vrai qu'ils font partie de l'ensemble politique, effectivement, mais le rôle qu'a le Sénat, c'est pas forcément ce rôle, c'est un rôle secondaire, c'est lui de contrôler, n'est-ce pas, contrôler la gestion du gouvernement, comme tout parlement, effectivement, et à ce niveau, effectivement, le Sénat a une part de responsabilité, mais en réalité, le quotidien du Congolais dépend du gouvernement, de l'exécutif. Et pour revenir un peu à ce que le professeur disait tout à l'heure, nous avons une jurisprudence politique. Ken Gwadondo était de l'opposition, il est sorti président du Sénat à l'époque. Donc vous comprenez que...
Alors que Kabila avait la majorité.
Donc vous vous dites tout simplement que nous avons un problème au sein de la classe politique congolaise. Il y a le respect des textes, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, Moleka l'a dit tout à l'heure, c'est un problème de culture politique sur lesquels, effectivement, et les partis politiques, et la société civile, et même les gouvernants, n'arrivent pas à former la population aujourd'hui, et même les membres des partis politiques qui vont demain peut-être prendre le pouvoir. Malheureusement, il n'y a pas cette formation-là. Donc, il y a des carences au niveau de la formation d'abord des membres. Or, c'est une responsabilité du parti politique. On doit former les membres. Il faut former les membres. Malheureusement, c'est une fonction qui n'est pas exercée ni par les partis politiques. Moins encore, c'est un seul tout la société. Et ça, ce sont des carences qui se rapportent sur la gestion de notre pays. Donc, je crois qu'il faudra corriger toutes ces choses.
Merci. On va commencer à conclure parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Professeur Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Et après cette élection au Sénat, comment vous entrevoyez la vie politique dans ces pays avec cette nouvelle configuration du bureau du Sénat?
Oui, la vie politique au Congo, malheureusement, ne va pas changer. C'est que nous serons dans la kleptocratie. Donc, on ne fait pas de la politique pour pouvoir mener des politiques de développement, mais on fait la politique pour uniquement s'enrichir et participer à ce qu'on appelle la mangeoire, au niveau du mangeoire, le mangeoire au niveau du gâteau. L'État est considéré comme une espèce de gâteau que tout le monde va se partager et que certains vont se partager au détriment des autres. Et ce système-là ne va pas changer. Il ne va pas changer du jour au lendemain. Et donc, nous allons toujours avoir le même problème avec les questions liées à la kleptocratie et c'est dans ce sens-là. Et donc moi j'ai très peu d'espoir que les choses vont véritablement changer avec l'élection, voire même à ce qu'on pourrait appeler la nouvelle configuration politique, auquel je n'ose pas y croire, puisque tout simplement on a beaucoup publié justement sur ces questions-là de gestion et de fonctionnement des régimes politiques africains, mais aussi pas que congolais, mais aussi des régimes politiques africains aussi qui sont dans cette même logique, d'où ce qu'on appelle essentiellement la politique donc du ventre. Voilà en résumé ce que je peux dire en termes de conclusion par rapport à cette élection.
Au poste, on vient de m'informer, au poste de casteur, un deuxième tour va opposer Topin Mukengesha et Kabongo et Moïse et Kumbo. Les résultats du premier tour sont les suivants. Carole Aguito, 25 voix. Moïse Kumbo, 31 voix. Mukengesha et Kabongo Topin, 39 voix. Christian Moleka, ça sera sur votre conclusion. Hein. Est-ce que c'est les jeux politiques congolais, on peut espérer qu'il pourra un jour changer?
Tout dépend des acteurs. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle la situation des élites. Changer des acteurs, permettre à donner à la population la perception du mouvement. La grande difficulté chez nous, c'est que le second mandat ne permettra pas de donner cette perception du mouvement. Donc on a une forme de statu quo dans l'image. Et ça ne va pas renforcer la confiance des citoyens à la rupture. Et ça dépend des acteurs, la capacité à se dépasser, à construire des systèmes qui dépassent les personnes. Nous avons encore au Congo des acteurs forts plutôt qu'un système politique fort qui peut dépasser les acteurs, se renouveler, mais rester. Tant qu'on ne construira pas un système plus fort, qu'on construira uniquement des personnalités fortes, eh bien la perception ne changera pas et puis il n'y aura pas beaucoup de changement. Il nous faut travailler à dépasser des hommes forts, travailler à avoir un système fort qui peut se ventiler, qui peut créer une circulation des élites, mais qui peut demeurer.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Vous l'avez dit ici, l'UDPS fait les choses avec beaucoup de subtilité. Elle a placé ses hommes sur qui elle peut compter pour 2028. Et donc vous pensez que, en dépit du fait que l'UDPS n'a pas pu obtenir comme elle avait souhaité le poste du président du Sénat, et c'est comment elle va exploiter les ressources qui sont là à son profit en 2028.
Oui, évidemment. Je vous dis que tout celui qui va résister, il sera éjecté. En politique, il n'y a pas d'amour, vous le savez, il sera éjecté absolument.
Lorsqu'on vous éjecte, vous partez avec votre part politique.
Ben écoutez,
et ça préjudicie, n'est-ce pas, la famille politique, l'Union sacrée.
Non, éjecter, c'est pas seulement être exclu. Par exemple, on peut le faire de manière très douce. Ça existe aussi. Voyez-vous, rappelez-vous, M. Kabere a été là, il est tombé sous le coup, mais il est toujours là. Voyez-vous? Donc, tout cela est possible, ça dépend des acteurs. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que...
Et vous ne pensez pas qu'il soit possible qu'en 2028, qu'il y ait une coalition, une nouvelle coalition qui se constitue, qui peut être constituée par Bahati, par Kamere, par Sama, et par Bemba? Et parce que, estimant que l'UDPS a déjà fait deux mandats, on se met ensemble pour, n'est-ce pas, cette fois-ci, accéder au pouvoir.
Tout dépend de la dynamique. Ça dépend de la dynamique. Parce qu'il y a 5 ans, 4 ans, pratiquement au devant de nous, ça dépend de la dynamique, de la manière, de la gestion quotidienne de toutes ces ambitions et tout ça. Et peut-être à la fin, nous verrons ce que cela va donner. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que, est-ce qu'on espère ou on n'espère pas? Mais je pense qu'il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership qui est très important. Généralement, des situations compliquées donnent naissance à des leaders transformationnels. Voyez-vous? Or, la République traverse des situations très difficiles. En principe, le leadership doit naître, un autre leadership doit naître, n'est-ce pas, de toutes ces douleurs que la République est en train de ressentir. Et je crois que le président de la République et l'ensemble de tous ceux-là qui gèrent des grandes institutions devront normalement se faire une sorte d'introspection et de chercher des solutions de sortie. On ne peut pas aller en 2028 avec la guerre. Donc l'UDP ça a des enjeux. On ne peut pas affronter 2028 avec la guerre à l'Est. Donc l'UDP risque de perdre les plumes à l'intérieur. Voyez-vous? Et dans l'entretemps, d'ici 4 ans, qu'est-ce que cela, quelle sera l'apport de chaque leader candidat potentiel de 2028? Est-ce que Mbemba va donner le résultat qu'il faut? Est-ce que Kamere va donner le résultat qu'il faut? Est-ce que tout ce monde là-bas va donner des résultats qu'il faut pour qu'en 2028, qu'il puisse arracher la confiance des masses? Je voudrais dire que chacun a un défi dans ce qu'il a choisi de faire ou d'assumer comme responsabilité au sein de l'appareil étatique. Donc il suffit tout simplement de faire une petite erreur pour éclabousser sur ses chances de passer en 2028. Et l'UDPS doit avoir un grand cœur et surtout des stratèges pour pouvoir jouer tous ces jeux et peut-être avoir une tête haute en 2028. Et particulièrement, c'est arrêter, terminer la guerre de l'Est. Ça, c'est l'enjeu majeur. Si la guerre de l'Est se termine, je vois que l'UDPS va encaisser des points qu'il faudra améliorer évidemment aux élections 2028. Peut-être pour avoir, pour reprendre le pouvoir.
Professeur Bob Kabamba, vous ne pensez pas qu'avec ces jeux politiques qui consistent, n'est-ce pas, à gérer les ambitions des hommes politiques, le deuxième mandat de Félix Tshisekedi risque, n'est-ce pas, d'être caractérisé par la gestion des ambitions et, au détriment, n'est-ce pas, de la gestion de la société?
Effectivement, comme je l'ai dit tout au début, c'est que la conséquence de tout ça va avoir des répercussions par rapport au fonctionnement général de toutes les, pas que de la du Sénat, mais de toutes les institutions, que ce soit l'Assemblée, voire même le gouvernement, et voire même au niveau provincial. Et donc, cette préoccupation qu'ont les différents hommes politiques à faire passer leurs propres intérêts que par rapport à l'intérêt donc, de la population va perdurer, et nous allons continuer à avoir un État qui s'occupe essentiellement au niveau du fonctionnement de ces institutions et pas nécessairement impulser des politiques de développement, par exemple des politiques de santé. Lorsqu'on regarde le budget, on se rend bien compte qu'une bonne partie du budget de l'État congolais va offrir des fonctionnements de ces institutions qui sont budgétivores. Et au fur et à mesure qu'on veut gérer ces ambitions, ça veut dire grosso modo, il faut gérer aussi les enveloppes et les billets verts à donner aux uns et aux autres. Or, ces billets et ces enveloppes viennent d'où ? Viennent des caisses de l'État. Et lorsque ça vient des caisses de l'État, les taux ne participent plus à essayer d'impulser des politiques qui vont amener à ce que les populations puissent se retrouver en termes de politiques de santé, des politiques éducationnelles, voire même au niveau même de développement économique, tout simplement. Malheureusement, c'est ce que l'on va avoir et les frais de fonctionnement vont continuer à augmenter puisqu'il faut gérer ces ambitions pas à coup de billets de dollars et à coup de des enveloppes qui viennent justement de pillage, on va dire, de ressources, de maigres ressources que l'État peut essayer de mobiliser.
Christian Moleka, nous allons finir cette émission avec vous. Comment l'homme politique congolais peut parvenir, n'est-ce pas, à harmoniser les impératifs politiques avec les impératifs du développement socio-économique de la population?
Frère, c'est un vrai défi. Déjà, il faudrait que nos partis politiques se muent en partis de gouvernance. On n'a pas de parti politique, de manière générale, qui se prépare à gouverner. Il faut que au niveau des partis politiques, lorsqu'on n'est pas encore au pouvoir, on prépare la gouvernance, on prépare ce que l'on fera au pouvoir. De sorte que l'arrivée au pouvoir, le casting des personnes permettent à mettre au cœur de l'action publique le changement que l'on souhaite. Si les partis politiques servent uniquement à porter les ambitions, à porter les personnes à conquérir le pouvoir et pas à préparer la gouvernance, et à la fois par la préparation du personnel politique, que ce sont les gens qui sont dans les partis politiques, à préparer les actions à mettre en œuvre, nous n'aurons toujours pas ces politiques de développement. Donc le vrai défi, c'est de faire de nos partis politiques des structures modernes de préparation de la gouvernance afin que lorsqu'on arrive au pouvoir, on soit prêt à travailler pour l'intérêt des citoyens.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Bob Kabamba, M. Joseph Kongolo et M. Christian Moleka. Merci également à Donat Madimba qui l'a réalisé avec Polydor Basunga qui était à la technique avec la participation de Jonathan Fonani et d'Hervé Voka sous la supervision de Mathès de Bujangwe. À la présentation, Bimate. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Capi.